C'est donc un très grand plaisir d'accueillir un vieil ami et un collègue de 30 ans au moins au Collège de France. Comme vous savez, la formule convenue pour dire que les gens sont très éminents, c'est « il n'y a pas besoin de présenter monsieur un tel ». Mais dans le cas de Tim Brooks, c'est vraiment vrai. Pour deux raisons, c'est premièrement qu'il vient très souvent en France, il a déjà donné des séries de conférences, il a participé à plusieurs colloques chez nous. Et d'autre part, Timothy Brooks et certains de ses livres, en tout cas, sont connus du grand public. Et à ce propos, je voulais vous signaler, c'est une petite publicité, la parution récente en traduction française de son dernier livre qui s'appelle « Le chapeau de Vermeer » et qui est, que je n'ai pas encore vu, mais enfin dont j'ai vu le descriptif, et qui est une réflexion sur la mondialisation de l'économie au XVIIe siècle qui part d'un certain nombre d'indices et d'objets relevé dans une série de peintures flamandes. Or, cette approche, je le mentionne aussi, parce que cette approche est tout à fait caractéristique du travail de Timothy Brooks, comme vous allez le constater pendant aujourd'hui et les semaines prochaines. C'est une approche, je dirais peut-être, où l'attention aux objets, aux détails et aux anecdotes se combine avec une vue globale des grandes tendances historiques et aussi des grandes questions théoriques, économiques ou autres. Les ouvrages de Timothy Brooks, j'ai perdu le fil, maintenant il y en a trop, ils sont trop nombreux pour être tous mentionnés. Ils ne portent pas tous sur la dynastie des Ming, même si l'histoire des Ming reste, je crois, un peu le socle du travail intellectuel et historique. Il y a même un retour maintenant, après d'autres intérêts sur les Ming. Mais Tim Brooks a publié des choses dans des domaines très différents, des choses importantes, je veux dire, des travaux de très haut niveau, et dont je mentionnerai deux qui seront certainement inattendus de la part d'un historien des Ming. L'un, c'est l'histoire ou l'étude de la collaboration avec les occupants japonais en Chine, donc pendant la guerre du Pacifique, en particulier autour de Shanghai. Et un autre livre, maintenant assez ancien, est tout simplement une étude basé sur des témoignages sur les événements de Tiananmen. Et à mon avis, c'est un des meilleurs livres sur Tiananmen qui soit sorti. Ceci dit, revenons aux Ming. Parmi les... Donc, je citerai encore une fois qu'un seul ouvrage qui est tout à fait dans la ligne des conférences que vous allez entendre, qui est, je l'avais même apporté... attendez. Qui a ce titre assez difficile à traduire en français, à vrai dire, « The Confusions of Pleasure ». Les confusions ou les désordres du plaisir, on pourrait peut-être dire. Mais enfin, ça fait peut-être un peu plus sexy que le contenu de l'ouvrage l'est en réalité. Mais que vous pourrez jeter un coup d'œil à la fin de la conférence si ça vous intéresse. Ce que je voulais simplement dire, c'est que là encore, dans cet ouvrage, on a une approche de l'histoire économique de l'époque des Ming, donc entre le XIVe et le XVIIe siècle, qui est organisée de façon extrêmement élégante autour d'une sorte de cycle de quatre saisons, et dans laquelle, là encore, l'amour et la connaissance érudite du détail, de l'anecdote, de l'objet, se conjuguent avec une vue que je dirais plongeante de l'histoire, des grandes tendances historiques pendant tous ces siècles, et où ces deux approches, disons, où ces deux sensibilités s'alimentent mutuellement. Et c'est donc ce que nous allons retrouver aujourd'hui dans ces conférences, aujourd'hui et les trois semaines suivantes, dans ces conférences consacrées au problème du prix et de la valeur. Et dernière chose, il y a deux choses encore que je dois faire. C'est premièrement remercier Tim Brooks d'avoir bien voulu céder à mon amicale pression et prononcer ces conférences en français, ce qui est vraiment un effort que personnellement j'apprécie beaucoup dans le cadre du Collège de France. Et la deuxième chose, c'est que, comme à tous nos invités, je dois lui remettre la médaille du Collège de France. Ah. Inscrite à votre propre nom.
Merci.
Et qui est un souvenir qu'on peut garder pour ses enfants et ses petits-enfants.
Merci beaucoup.
Voilà, et je vous donne la parole.
J'aimerais commencer par remercier mon vieil ami et collègue sinologue, le professeur Pierre-Étienne Ville, pour son invitation cordiale à présenter au Collège de France quelques observations et conclusions préliminaires sur ma dernière recherche, l'histoire des prix dans la Chine de la dynastie des Ming. Je considère Paris comme mon second foyer intellectuel et suis très reconnaissant d'être accueilli de nouveau par tant de vieux amis. Prix et valeur pendant la dynastie Ming, se demandera-t-on, est-ce un sujet assez intéressant pour y consacrer quatre conférences? C'est à vous de décider, mais tenez pour certain que je me suis posé la même question. En général, l'histoire des prix n'est pas le domaine dynamique qu'il était auparavant. Au début du XXe siècle, l'histoire des prix a émergé comme un domaine de recherche nouveau et intéressant qui relevait tant les conditions de vie de l'époque que les tendances qui ont configuré la vie économique à long terme. Cependant, pour les chercheurs d'aujourd'hui, l'histoire des prix, à vrai dire l'histoire économique dans son ensemble, n'a plus qu'un intérêt marginal. On la considère comme un domaine d'études secondaires très technique, réservé aux analystes quantitatifs, mais peu intéressant pour les autres. Les historiens de la Chine constituent une communauté culturelle qui inclut un nombre limité d'historiens de l'économie et encore moins d'historiens des prix. Le problème pour l'historien des Ming c'est pas simplement le changement des modes académiques, mais plutôt la pénurie de ressources disponibles pour répondre aux questions que l'historien se pose, comme par exemple quel prix paye-t-on pour quelque chose, quand le paye-t-on et où. Quelques-uns et quelques-unes d'entre vous savent peut-être que la recherche sur les prix pendant la dynastie des Qing constitue une discipline secondaire pour laquelle on dispose de quelques données, mais celles-ci sont limitées. Les contributions importantes peuvent être comptées sur les doigts d'une main. Alors, pourquoi ai-je tant tenu à repousser l'étude des prix jusqu'à la dynastie des Ming, période pour laquelle on a encore moins de données? Au départ, ma motivation était simple. Après avoir étudié l'histoire des Ming pendant quelques décennies, j'ai eu le sentiment qu'il subsistait une lacune énorme dans mes connaissances. Si je ne connaissais pas le prix des choses, je ne pouvais espérer reconstruire la vie des gens sur les Ming. Je pouvais bien parler de la polarisation entre les riches et les pauvres, sujet souvent discuté par les spécialistes des Ming, mais sans savoir exactement ce qu'il faut entendre par « riche » et « pauvre ». Je pouvais examiner le travail administratif des fonctionnaires de l'État, sujet sur lequel on a également beaucoup écrit, mais sans connaître l'effet des impôts perçus ou le coût des projets de l'État sur les revenus des gens ordinaires. J'ignorais si un poulet était plus cher qu'une tasse de thé, ou si un morceau de tofu coûtait moins que du poisson. J'ai donc commencé à rechercher des données susceptibles de relever ces faits ignorés. Autrement dit, je me suis lancé dans une recherche sur les prix. Pour un historien comme moi, qui n'est pas économétricien, les prix eux-mêmes n'ont pas de signification en l'absence d'une problématique appropriée. La problématique que je vais vous présenter au cours de ces conférences relève de l'histoire sociale plutôt que l'histoire économique. Elle inclut 6 propositions. 1. Sous la dynastie des Ming, on était dépendant comme jamais avant des prix pour arriver à survivre. 2. Les prix déterminaient la vie économique dans les villes, bien sûr, mais aussi dans les campagnes. 3. Les prix dont on était dépendant étaient plus instables qu'ils ne l'avaient jamais été. 4. Les prix jouaient le rôle de coin entre les riches et les pauvres, même ils faisaient un champ de bataille. 5. Lorsque les prix atteignaient des niveaux extrêmes, ils avaient un impact non seulement sur les conditions de la vie, mais aussi sur les valeurs morales, les certitudes étant mises en doute. Et finalement, 6, la domination des prix sur l'organisation de la vie quotidienne et aussi bien sur les attentes de plus en plus grandes concernant la notion de vie bien vécue dans l'imaginaire au cours de la dynastie. Tels sont dans les thèmes que je vais poursuivre au cours de ces conférences. afin de vous introduire à l'horizon conceptuel de ceux qui se préoccupaient du problème des prix vers la fin des Ming, qui est aussi un problème de valeur à une époque où les prix et les valeurs ne sont pas en harmonie, et aussi enfin de vous faire apprécier le type de questions non économiques que j'ai dû poser, comme par exemple, pourquoi tient-on à relever un prix à un moment particulier? J'aimerais vous lire quelques extraits d'un récit extrêmement vivant rapportant l'expérience d'un individu particulier par rapport aux fluctuations des prix pendant sa vie, laquelle a commencé dans les années 1570 et finit dans les années 1640. L'individu en question s'appelait Chen Shide. Sa vie coïncide presque parfaitement avec le règne des trois derniers empereurs de la dynastie des Ming. Wan Li, qui monte sur le trône en 1672, son fils Tianqi, qui est totalement incompétent et qui a régné pendant les années 1620, et son petit-fils Chongzhen, nettement plus compétent, qui a dû se suicider en 1644 pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi. Chen Shide vivait dans la sous-préfecture de Tongxiang, une centaine de kilomètres au sud-ouest de Shanghai, dans le delta du Yangtze. Il n'a pas été une figure importante de son vivant, mais les historiens le connaissent grâce à deux essais rédigés par lui, l'un daté du 19 septembre 1641 et l'autre du 8 septembre 1642. Ces deux documents ont survécu dans un petit livre contenant des essais édités et publiés par des membres de la famille Chen longtemps après sa mort. Ce livre a été publié à faible tirage et je n'en connais qu'une seule copie disponible. Cependant, les historiens d'aujourd'hui ont pu prendre connaissance de ces essais parce qu'ils ont été reproduits dans la monographie locale de la sous-préfecture de Tongxiang en 1887. Permettez-moi de vous lire des extraits de ces deux textes. Je présente quelques illustrations ici de la vie quotidienne de Ming. Je l'ai découvert dans une peinture de Chou Ying, 16e siècle, peinture de 16e siècle. Ça vous donne une impression de les riches et les pauvres. Ici, on voit les riches qui achètent des livres, qui montent sur un cheval, et les pauvres qui doivent travailler chaque jour pour survivre. Alors, vous donner quelques détails techniques avant de commencer. Chen se réfère à deux devises. La majorité des prix dont il parle sont en argent. Un taël d'argent pesait un peu plus de 37 grammes. Un centime, c'est-à-dire un centième de taël, pesait un peu moins de 0,4 grammes. Et ici, on vous donne deux exemples de l'argent. À droite, c'est un exemple de la dynastie des Yuan. Il vaut 50 taels et le plus petit c'est 25 taels. Chen fait aussi référence aux monnaies en cuivre. Un centime d'argent valait nominalement 10 pièces de cuivre et ici on vous présente une pièce de cuivre de Chongzhen. Chen fait aussi référence, il fait référence en deux sortes de monnaie et je vais parler sur la question de cuivre et argent dans ma conférence de la semaine prochaine. Tout en lisant des extraits de ce que Chen Shide écrivait, je vais vous montrer quelques illustrations que j'ai tirées du Jimin Tushuo, le livre « Illustré des affamés » présenté à l'empereur Wan Li 1594 par un fonctionnaire nommé Yang Dongming, alors qu'une grande famine menaça de dévaster la province de Henan. Et je cite, « Je suis né trop tard pour avoir été témoin de la gloire des empereurs fondateurs Hongwu et Yongle, ou des merveilles des époques Changhua et Hongzhi. Les premiers souvenirs de ma vie me ramènent au début du règne de Wanli. Quand j'étais un petit garçon, l'abondance des récoltes était universelle et le peuple jouissait de la prospérité économique. Le prix d'un décalitre de grains ne dépassait pas 3 ou 4 centimes. Si l'on voulait faire fermenter des grains pour en faire quelques autres produits, eh bien, on faisait fermenter des grains. Même les pauvres jetaient les dépôts qui restaient après l'opération. On n'hésitait pas à prendre des haricots ou du blé pour nourrir les vaches et les cochons. Chaque famille pouvait se permettre tout le poisson et la viande dont elle avait besoin. Le peuple pensait que cette prospérité serait éternelle. Comment savoir que les besoins des gens allaient se transformer en des bouches et que la voix du ciel allait condamner l'abondance? L'année 1588 est arrivée et, en un clin d'œil, l'on s'est retrouvé trempé par les pluies battantes qui ont transformé les champs en une vaste mer. Puis, en 1589, les terres desséchées s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Il n'y avait pas une goutte d'eau dans les rivières et l'on ne trouvait plus que des herbes sauvages de partout. À cette époque-là, si l'on avait mis de côté 100 litres de grains, on pouvait demander 1,6 taels d'argent. Le prix des grains monte en flèche et il est resté élevé pendant des mois et des mois. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il ne restait pas un grain de blé dans les champs, ni un seul morceau d'écorce sur les arbres. Les réfugiés remplissaient les chemins et l'envoyaient des cadavres partout dans les rues. Si l'on a survécu à cette période et on est arrivé au début du règne de Tianqi. Et bien que les prix de grains soient montés et redescendus plusieurs fois, ils ne pouvaient se comparer pas à la sévérité des pires années de famine. Après quelques vingt années, ça était l'année 1540. Des pluies torrentielles sont tombées pendant des semaines et des mois. Comparé à l'année 1588, les inondations étaient plus hautes qu'au moins 67 cm. Tout le territoire s'est transformé en un vaste marais. Les barques circulaient au milieu des lits et des canapés, et les poissons nageaient dans les puits et dans les fourneaux. Ceux qui possédaient des maisons à l'étage se réfugiaient à l'étage supérieur. Ceux qui n'en avaient pas grimpaient sur le toit ou sur les terrasses et priaient pour être encore en vie à la fin de la journée. Au début, le grain coûtait un tael par hectolitre, et petit à petit, il est monté jusqu'à 2 taels. L'année suivante, c'était la sécheresse de 1641 qui a rapidement atteint des proportions désastreuses. Les rivières étaient asséchées. Le prix du grain a bondi de 2 à 3 taels. Les paysans payaient 40 centimes le décalitre. Bien que la récolte du blé de printemps fût deux fois plus abondante qu'auparavant, elle ne suffisait pas pour nourrir tout le monde. Certains se nourrissaient de balles de grains, d'autres mangeaient le son laissé par le blé. D'autres essayaient même de mélanger des mauvaises herbes et de l'écorce avec la balle pour leur entrée. Les riches avaient de la chance s'ils arrivent à nourrir tous les membres de leur famille avec du gruau deux fois par jour. La plupart ne pouvaient se le permettre qu'une seule fois par jour. Les maris abandonnaient leurs épouses. Les parents abandonnaient leurs enfants. Chacun s'enfuyait dans les quatre directions pour survivre. On trouvait beaucoup d'objets utiles sur les marchés, mais la moitié de ceux qui en avaient l'utilité, regardèrent les prix et s'en allèrent. Les prêteurs fermaient leur boutique et l'on ne pouvait pas mettre d'objet en gage. Le peuple priait sans obtenir aucune réponse du ciel. Alors Chanchi de poursuit sa description des difficultés de la vie du peuple, mais il revient à la situation des prix au début de l'automne de 1641. Voici ce qu'il écrit. Toutes les marchandises sont au minimum plusieurs fois plus chères qu'elles n'ont jamais été. Par exemple, les poules et les oies coûtent 5 ou 6 fois plus qu'avant. Même le soya cultivé pour faire du tofu ne peut être acquis pour moins de plusieurs dizaines de centimes. Du coup, une famille de 8 personnes qui n'a rien à manger est contente d'avoir le fourrage des cochons. Les familles moyennes ne peuvent plus se permettre d'élever un porc et les truies pour la reproduction ont été vendues depuis longtemps pour payer les dépenses. Jusqu'à les offrandes aux dieux pouvaient se faire en viande de porc pour une valeur dentelle d'argent. À présent, une tête de porc coûte 80 ou 90 centimes. Du coup, alors que par le passé, on pouvait entendre partout le cri des poulets et des chiens, maintenant, on ne les entend plus que sur les grands marchés, et cela seulement si on écoute attentivement. Alors, une année plus tard, Chen décrit encore une fois les effets des calamités sur la population de la sous-préfecture de Tongxiang. Cette fois-ci, c'est encore pire, avec des hausses de prix sans précédent, jusqu'à atteindre des niveaux tout à fait inimaginables. Et je cite. À l'automne 1641, j'ai décrit la famine désastreuse qui sévissait cette année-là. Mais j'ignorais que la calamité n'avait pas encore atteint son apogée. À l'hiver 1641, les gens se sont retrouvés incapables de sortir assez de grains pour payer leur rente, car tout avait été déjà vendu. Ceux dont les moyens étaient les plus modestes n'arrivent pas à se nourrir et les plus riches se trouvaient pressurés non seulement par les fonctionnaires de l'État, mais aussi par la nécessité de nourrir leur propre famille. Ceux qui ne possédaient aucune propriété n'avaient rien à vendre. Les familles disposant de quelques hectares s'enfuyaient. Ceux qui possédaient des dizaines ou des centaines d'hectares étaient dépouillés par les fonctionnaires. Les gens abandonnaient leurs terres comme on jette des vieilles sandales. Il n'y avait pas de riz à acheter sur le marché. Même si un marchand avait des grains, les gens passaient sans en demander le prix. Les riches se voyaient contraints de quémander les haricots et du blé, et les pauvres de la paille hachée et des ordures pourries. Ceux qui mettaient la main sur quelques litres de paille hachée ou sur l'écorce étaient extatiques. Chen continue à décrire le désespoir de la population pendant le printemps de 1642, quand les gens ont commencé à tuer et à dévorer les enfants pour survivre. Avec l'arrivée de l'été, une épidémie frappe Tongxiang. Il y a tellement de morts qu'on doit les enterrer dans les charniers. Puis, Chen Shide revient de nouveau sur la question des prix. Et je cite, « La nourriture était 2 fois plus chère que l'année précédente. Un gros poulet avec ses 2 pilons rapportait 1000 pièces. Un petit poulet qui ne pouvait à peine caqueter valait de 500 ou 600 pièces en cuivre comptant. Les cuisseaux de porc coûtaient 5 taels d'argent, puis ils sont montés à 6 ou 7 taels. Un petit cochon valait 1 tael 50, voire 1 tael 1 tael et de plus. Par contre, une servante pouvait s'acheter pour seulement 1 ou 2 000 pièces. Or, les êtres humains ne devraient pas-ils être précieux et les animaux d'élevage bon marché? Heureusement, au mois de septembre, les prairies ont commencé à fleurir et le prix du grain est graduellement retombé. Encore une fois, nous ne pouvons pas oublier ce que s'est passé. J'ai rédigé ce nouveau compte rendu. Et je suis fini avec la citation. C'est ce genre de source qu'un historien des prix sur la dynastie des Ming doit utiliser. Qu'est-ce qu'on en apprend? Ces deux documents nous livrent 14 indications de prix avec des dates bien précisées. Ces indications sont extrêmement précieuses étant donné l'absence générale d'informations sur les prix dans les sources des Ming. Il est vrai qu'il s'agit de prix de crise qui ne relèvent pas grand-chose sur les prix normaux, mais c'est mieux que rien. Cela étant, les essais de Chen Shide révèlent beaucoup plus sur l'histoire des prix sous les Ming que ces 14 indications. Commençons par ce que nous apprenons de plus essentiel, à savoir que les prix comptaient beaucoup pour les sujets des Ming. Ils savaient combien les choses devaient coûter et combien elles coûtaient effectivement. Ils savaient quand les prix changeaient et de combien ils changeaient. Cela peut vous paraître d'une évidence risible, mais l'existence d'une conscience des prix est quelque chose que les historiens se doivent se démontrer avant de le supposer. Une autre chose qu'on apprend dans les documents de Chen Shide, c'est que tout a un prix dans le monde où il vit, y compris les êtres humains. Il trouve choquant qu'une servante puisse coûter moins qu'un petit cochon, mais il trouve normal qu'une servante ait un prix. Tout avait un prix. Une troisième chose qu'on apprend, c'est que ces prix changent. De cette façon, colorée, c'est que la population préfère que les prix restent les mêmes et probablement qu'elle considère qu'elle est en droit d'attendre une telle chose. Les récits de Chen nous montrent aussi que parler des prix peut avoir une certaine puissance narrative. Un prix était un moyen de mesurer l'impact de la crise et plusieurs prix aident à en décrire le déroulement. Cela ne nous en dit pas beaucoup sur les prix eux-mêmes, mais nous montre que les gens étaient vulnérables aux fluctuations des prix et que dans leurs imaginaires, ils savaient ce que cela voulait dire quand ils en entendaient parler. Je voudrais souligner ici que les prix peuvent être des données économiques, mais qu'ils peuvent aussi offrir des renseignements d'un autre type. Ils peuvent certainement servir de baromètre des conditions économiques, mais ils fonctionnent également comme les signifiants culturels et discursifs, en façonnant les attentes des gens concernant le type de vie qu'on est en droit de vivre, ainsi que leur notion de le genre de fardeau qu'on peut ou qu'on ne peut pas supporter. Je souhaite attirer votre attention sur cette facette de l'histoire des prix, en partie parce que je ne suis pas en mesure d'illustrer ici le travail usuel associé à l'histoire des prix, à savoir compiler des données massives, convertir les prix nominaux en prix réels, créer des séries, et ainsi de suite. Les prix que j'ai trouvés ne correspondent pas du tout à ce que le pionnier de l'histoire des prix, Earl Hamilton, décrivait en 1944 comme, et je cite, « la donnée économique la plus ancienne, objective et perpétuelle qui existe ». Dans le cas de prix donné par Chen Shide, il s'agit de chiffres tellement exceptionnels, pourtant en tel effet rhétorique, qu'il nous est impossible de savoir si quelqu'un les a vraiment payés. En ce qui concerne les prix qu'on peut trouver dans les autres sources Ming, il peut s'agir de prix qu'on demandait et non pas ce qu'on payait. Ou alors de prix qu'on consentait à payer, mais étant tacitement entendu qu'on n'aurait pas à les payer complètement. ou encore de prix valant pour une autre denrée que celle pour laquelle on payait, ou de prix camouflant des rabais, ou de prix pour les achats à crédit pour lesquels on pouvait demander un intérêt, à moins qu'il n'y soit déjà inclus, ou de prix enregistré pour laisser une trace écrite plutôt que pour livrer une information complète sur ce qu'on a effectivement déboursé, ou de prix noté dans un type de monnaie mais payé dans un autre, ce qui peut impliquer soit des rabais non signalés, soit des surcharges selon le marché de devises, ou encore de prix payés en marchandises et non pas en monnaie, de prix décidés sous la contrainte et non par le marché, de prix rapportés longtemps après la vente et donc mal mémorisés, et de prix qu'on suppose avoir été payé, bien qu'il n'y ait pas de preuve et qu'il s'agisse seulement de rumeurs. En bref, ce qui, à première vue, semble représenter des prix dans les sources Ming s'avère souvent être à peine cela. Mais je ne me suis pas laissé décourager par toutes ces objections. Les historiens, comme les archéologues, sont optimistes par nature, sans quoi l'on ne continuerait pas à creuser les mêmes trous. Même si je ne suis pas en mesure de proposer une analyse économique à partir de mes données, je puis utiliser les documents qui font référence au prix pour explorer des questions importantes d'histoire sociale, politique ou culturelle. En partant à la recherche des prix, j'en ai appris plus sur la Chine des Ming que je n'en savais auparavant. Une chose que j'ai appris, et j'ai déjà fait allusion, c'est qu'à l'époque des Ming, les gens savaient très bien qu'ils vivaient dans un monde où, probablement pour la première fois, absolument tout avait un prix. Certains voulaient croire qu'ils vivaient encore dans une économie morale où chaque foyer produisait et consommait tout ce dont il avait besoin. C'était cette vision qui avait poussé le fondateur de la dynastie des Ming à essayer d'imposer par la loi un ordre fixe et stable qui s'étendrait depuis la cour impériale jusqu'à chaque village dans le pays. Alors qu'en réalité, le monde était un monde déterminé par les prix. Les témoignages sur les prix sont inégaux, comme je l'ai déjà suggéré. Mais les preuves qu'il existait une conscience des prix, une angoisse serait peut-être un meilleur mot, se trouvent partout. En voici un exemple. En 1570, quand l'eunuque en chef de la cour impériale demanda à un héros militaire de lui vendre une épée magnifique qu'il possédait, l'officier se mit à rire dédaigneusement. Comment pouvait-on traiter une épée aussi superbe, et je cite, « comme de la marchandise » Fin de citation. Mais il n'était pas naïf politiquement au point de rejeter une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Comme il cherchait à se gagner la faveur de la cour, ses protestations ne l'empêcheront pas de vendre effectivement son épée à l'eunuque en chef. Et voici un deuxième exemple. En 619, un pieux bouddhiste a rédigé un texte sur un reliquaire de la montagne du Guo, Asoka, Ayuwangshan, près de Ningbo. Ce reliquaire contenait un fragment du corps de Bouddha, l'objet religieux le plus précieux qui se puisse concevoir. Pour en décrire la valeur, il le déclara, et je cite, « sans prix ». Fin de citation. Mais, et c'est le reliquaire dont il parle. Mais les protecteurs du monastère de roi Ashoka n'étaient naïfs au point d'ignorer que l'exposition des reliques était une affaire profitable et que le prix comptait énormément. Un objet sacré coûte beaucoup d'argent à acquérir et à exposer, mais les sommes dépensées à cet effort sont un investissement. L'objet attire les croyants sur le site et les encourage à faire des donations. Le reliquaire en question est le seul objet décrit dans les illustrations de la monographie du monastère publiée cette année-là par les protecteurs du monastère, précisément pour encourager les autres donations. Ces précieuses reliques étaient importantes pour leur signification religieuse également. Ce n'était pas seulement une question d'argent. Mais dans une économie commerciale, comme Karl Marx l'a remarqué dans le contexte européen, les profits monétaires ne sont jamais très loin. Et je cite de Marx, « Même les eaux du sein, il observe avec son ironie pincante, n'échappent pas à l'alchimie qui convertit tous les produits, qu'ils soient de première nécessité ou non, en argent. » Autrement dit, les sujets des Ming n'étaient pas très différents de leurs contemporains européens. Ils étaient habités par la même anxiété concernant la façon dont un monde organisé par rapport au prix et où existaient les moyens d'acheter des choses étaient subversifs de l'ordre économique et moral des choses, pour citer encore le même passage du Capital. Cette anxiété relative au prix précède en fait l'époque de Marx, tout comme elle n'a pas commencé en Chine à l'époque des Ming. L'économie marchande en Chine date au moins de l'époque des Tang. Mais ce qui distingue la période des Ming des périodes antérieures de l'histoire de Chine et aussi des autres parties du monde à la même époque est une affaire de degré. L'omniprésence des relations commerciales, le nombre de personnes concernées par ces relations, la taille de la production domestique et, en plus de cela, le facteur essentiel pour écrire l'histoire, à savoir la documentation qui a survécu et qui nous permet d'entrevoir l'économie en action, tout cela dépasse l'échelle de ce qu'on peut trouver sous les dynasties antérieures. L'accès n'est pas la même chose que la prospérité. La période des Ming a connu beaucoup de prospérité et de souffrance. C'était une époque où la richesse individuelle pouvait atteindre des niveaux extraordinaires, mais aussi où la pauvreté pouvait obliger les chefs de famille à mettre un prix sur chaque bien, y compris leurs épouses et leurs enfants. Sous les Ming, les gens étaient soumis à des pressions environnementale et politique qui étaient susceptibles les unes et les autres de faire monter ou baisser les prix. C'est une époque qui a marqué un point tournant dans la configuration morale de la vie en Chine, quand la richesse monétaire a sapé les certitudes de la tradition et de l'autorité et qu'il est devenu difficile de se mettre d'accord sur ce qu'on entendait par « bien vivre ». Ces changements ont exercé une grande pression sur la valeur, entendue dans le sens le plus large, non seulement dans le sens du coût des objets qu'on désirait ou dont on avait besoin, le domaine conventionnel de l'histoire des prix, mais aussi dans le sens de ce dont on pensait avoir besoin et de ce qu'on pouvait désirer. Quand tout le monde peut se permettre d'acheter un bonbon, ce n'est pas un luxe. Et le fait d'en posséder ne sépare pas les gens en plusieurs classes. Ce n'est pas un objet de distinction entre le bien et le mal. Mais quand certains peuvent se permettre d'acheter tous les bonbons du monde et d'autres pas un seul, l'inégalité dans la possession produit un maquis de dilemmes moraux. La période des Ming était une période où certains risquaient de vivre sans connaître le goût des bonbons, tant que d'autres pouvaient s'en bourrer à longueur de journée sans aucun risque économique. De ce fait, certains dilemmes suscités par l'argent ont attiré l'attention des grands esprits de la dynastie, tant du point de vue économique que du point de vue philosophique. L'un et l'autre, de toute façon, n'étant parfois qu'une seule et même chose. Pouvait-on échanger l'épée d'un héros contre de l'argent? Pouvait-on mettre un prix sur un reliquaire bouddhiste? Et si on le pouvait, qu'est-ce que cela signifiait, sinon une perversion des choses? Les grands esprits des Ming sont de monde palpable, le monde des choses, auquel les prix appartenaient dans un effort connu sous le nom de Gewu, l'étude des objets. Mais en tant que confucéen, il comprenait que ce premier pas devait être suivi d'un deuxième, Zhi, l'accroissement des connaissances. S'emparer des preuves fournies par le sens et localiser avec précision les mécanismes qu'on peut en déduire pour accroître la connaissance morale jusqu'à sa pleine capacité. En conséquence, quelques-uns ont étudié les prix afin de déduire que ce que l'oscillation des prix pouvait révéler sur le monde moral ou sur le monde réel. J'hésite à appeler ce type d'analyse science économique, c'est notre discipline et non la leur, mais c'était un élément de ce sur quoi un confucéen politiquement engagé, préoccupé de bon ordre social, avait à réfléchir. Le prix n'était pas seulement le coût des choses. Les fluctuations des prix annonçaient l'instabilité et constituaient les signes de ce qui risquait d'arriver. L'expérience des variations des prix a pu néanmoins conduire les Chinois de l'époque des Ming vers une sorte de science économique. Par exemple, ils ont compris qu'il y avait une chose appelée cours de marché et que ce cours fluctuait. Comme un magistrat le fait remarquer pendant un appointage en 1572, les terrains sont immobiles, mais leurs prix changent et sont inconstants. Ils ont aussi compris la logique de l'offre et de la demande. Si on s'attendait à ce que le prix des brosses en pelage de lièvre monte, quand on ne voyait pas la lune pendant l'équinoxe d'automne, par exemple, parce qu'on croyait que les lièvres femelles tombent enceintes seulement pendant la pleine lune. Avec l'écroulement de l'offre en lièvre, le prix des brosses ne peut que monter. Inversement, à Shanghai, au XVIIe siècle, quand le prix de la viande et du poisson s'est effondré, les observateurs ont attribué le phénomène à la très grande popularité d'un culte bouddhiste végétarien qui était répandu partout dans les campagnes. Quand la demande tombe, les prix tombent aussi. Il n'y avait pas de mystère concernant le système d'offres et demandes. La chute saisonnière du prix des grains était une expérience annuelle. Tout le monde savait que le prix des grains serait plus élevé pendant la période qu'on appelait la période où le jaune et le vert ne sont pas encore rencontrés. C'est quand les cultures continuaient de pousser, mais n'étaient pas encore prêtes à être récoltées. C'était le moment où les consommateurs qui devaient acheter des grains étaient le plus vulnérables. C'était aussi le moment opportun pour les producteurs. Comme l'affirmait un écrivain agronome très lucide, ceux qui ont en surplus doivent attendre le moment où le prix du grain est le plus favorable. C'était la façon dont le marché saisonnier fonctionnait. Et le paysan qui pouvait profiter en vendant ses grains à un prix avantageux dicté par le marché se devait de le faire. Les prix saisonniers pouvaient être jugés comme justes ou injustes, mais ce jugement se faisait en fonction du système d'offres et de demandes au moment où le prix était coté. Malgré cette tolérance relativement à l'oscillation des prix, l'idéal a toujours été que les prix restent stables. Les fonctionnaires locaux réitèrent constamment dans leurs textes l'importance de s'en tenir à des prix justes ou équitables. Les prix instables, comme Chen Qide le savait très bien, créaient de l'instabilité ailleurs. Le désaccord concernait la contribution du marché à la stabilité ou l'instabilité des prix. Certains fonctionnaires Ming souhaitaient que l'État devrait intervenir directement quand le prix du grain montait, soit en ouvrant des greniers officiels, soit en demandant aux marchands d'importer des grains d'autres endroits. Un grand nombre le faisaient de toute manière dès que les prix montaient. Il y avait néanmoins une option différente chez certains penseurs. Cette option reconnaissait la valeur de l'intervention stratégique, mais elle faisait confiance aux marchands en tant qu'agents les plus capables de résoudre la crise des prix. Quand le prix des grains montait, ils s'attendaient à ce qu'ils poursuivent leur intérêt personnel et transportant les grains dans les endroits où les prix étaient plus élevés, ce qui aurait pour effet de faire retomber les prix. Les écrits de Husson, un expert sur la famine ayant vécu au XVIIe siècle, offrent un bon exemple de l'opinion suivante, laquelle le marché a la capacité d'opérer un ajustement correct des prix de façon autonome. Hu disait que son lecteur était de l'opinion que, et je cite, « qu'il s'agit des grains de l'État ou des grains du peuple, les prix devraient monter et descendre par rapport au prix courant, sans qu'on le force vers le bas ou vers le haut. » Quand le prix est élevé, il y aura beaucoup de marchands venus d'ailleurs pour se rendre dans cette zone. Avec beaucoup de grains, le prix se stabilisera tout seul. Fin de citation. Pour Hu, le marché était le meilleur mécanisme de stabilisation des prix, supérieur à tout ce que l'État pouvait faire. Je cite encore, « C'est en fait que la tendance en est des choses rondes inexorable. » Fin de citation. C'était ainsi que le marché fonctionnait. On ne peut pas toujours dire clairement quelle opinion guidait les actions des magistrats locaux quand ils s'affrontaient à une crise des prix. Dans les régions commerciales qui bien approvisionnées, la majorité laissait le marché résoudre le problème. Par exemple, dans la sous-préfecture de Haicheng, le principal port de la côte de Fujian, qui faisait du commerce avec les Espagnols à Amenil, le prix du riz se mit subitement à monter au début de juin 1615. Quand il arriva à 20 centimes de théal le décalitre, le magistrat Tao Rong ordonna aux greniers de la sous-préfecture de prêter des grains à quiconque en avait besoin. Une semaine plus tard, les chalands de grains arrivèrent de Zhejiang, plus au nord sur la côte. Tao reconnaissait très bien la sous-préfecture qu'il gouvernait. Je suppose qu'il savait que les marchands de Haicheng allaient résoudre le problème. Il est possible qu'il leur ait parlé pour s'assurer qu'ils allaient effectivement le faire. Tout ce qu'il devait faire était d'attendre quand quelconque facteur fasse monter les prix, puis nourrir tout le monde jusqu'à ce que les chalands en grains arrivent. Mais tous les magistrats n'avaient pas la chance d'avoir le marché à leur disposition. Je reviendrai à la fin de cette série de conférences sur les prix extrêmes dont Chen Qide nous a donné plusieurs exemples. Je suis intéressé par les prix extrêmes en partie parce que les données sont meilleures que pour les prix ordinaires. Ce qui était anormal fascinait particulièrement les écrivains des Ming. C'est aussi parce que les prix extrêmes sont les seules données avec assez de profondeur chronologique pour les dater. Pourtant, avant de continuer à s'intéresser aux prix désastreux, il convient d'avoir quelques informations sur des prix en temps normal. Cela fera le sujet de la conférence suivante. Les données que j'ai trouvées sur les prix normaux sont très superficielles, mais elles sont suffisantes pour me permettre de tenter d'estimer le coût de la vie dans la Chine des Ming et, en plus, de le comparer au coût de la vie dans l'Italie du XVIe siècle. Dans ma troisième conférence, je quitterai le domaine des prix ordinaires et décrirai un autre monde de prix élevés sous les Ming. En l'occurrence, les prix extrêmes qu'on payait dans une économie de luxe pour les œuvres d'art et les objets anciens. Les données sont assez rares, mais les mécanismes des prix sont évidents. Dans la quatrième conférence, enfin, je me déplacerai des prix extrêmes des riches vers les prix extrêmes des pauvres, de la collection des œuvres d'art à la famine. Cette dernière conférence bouclera la boucle engagée avec la conférence d'aujourd'hui sur le monde des prix désastreux au début des années 1640, le monde décrit par Chen Qide. Vous pourriez bien très bien considérer l'ensemble de ces conférences sur l'histoire des prix autant de la dynastie de Ming comme rien d'autre qu'autant de post-scriptum au essai de Chen Qide. Je pense que la dernière illustration, c'est pour décrire le monde de Ming. C'est un monde qui a les riches et les pauvres et qui vivent ensemble. Merci.